Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez nous dans Rock'n Page. Que vous soyez sur Radio Clapas ou Divergence FM, sur Radio Grille Ouverte ou Valais FM, qu'importe pourvu que nous nous y croisions. Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine qui aime la musique. Parce que Rock'n Page, c'est exactement, c'est l'occasion pour moi de partager avec vous mes coups de cœur BD, romans ou nouvelles. Et pour y arriver en grand, je chronique les bouquins, j'interviewe les auteurs. Et enfin, j'ai envie de vous dire, je vous propose pour chaque livre évoqué une playlist, ou plutôt sa playlist. Quel titre pour quel musicien pour quel univers littéraire, là je me fais plaisir et je partage encore. Décloisonner les genres et les gens, allez-vous, feu, c'est parti. Aujourd'hui dans Rock'n Page, et une fois n'est pas coutume, un roman auto-édité, par contre, et comme d'habitude, un roman qui vaut le coup qu'on s'y attarde. Son titre, Je ne suis que son nègre, son auteur, Maud Saint-Ain. Et comme j'ai voulu vraiment vous faire entrer dans ce roman, eh bien je l'ai invité, Maud Saint-Ain, et figurez-vous qu'elle a répondu présente à mon invitation, alors ne bougez pas car d'ici une poignée de secondes, elle viendra elle-même vous en causer de son troublant roman, troublant un peu, allez un petit peu comme ça je dirais. Eh ben oui, bim, un Tune Yards dans les oreilles, là, comme ça, pour vous causer d'entrée de jeu et sans vous en avoir dévoilé un seul mot encore de « Je ne suis que son nègre », le roman de Maud Saint-Ain. Et je dirais même plus « Bam, gangsta » de Tune Yards pour sa dimension polissonne, talentueuse, pour sa dimension poly, P-O-L-Y même, son même, mais je veux dire plusieurs voix là ce coup-ci. Allez, avant de recevoir Maud Saint-Ain, qui bien mieux que moi vous causera de son roman, laissez-moi vous dévoiler juste ce qu'il faut de la petite histoire de « Je ne suis que son nègre ». Alix, la trentaine, dégage vers la quarantaine naissante, vit seule avec sa petite fille Stéphane. Le père de sa fille, c'est Tom. Et là, je me tais pour vous laisser lire ce qui concerne Tom. Zélie, sa meilleure amie, espèce de boule de Guronzan écorché vive jamais en veille est un pilier dans la vie d'Alix. Et puis je vous laisserai découvrir Lucas ou encore Jean. Bon, ok. Et c'est là, ou plutôt dès les premières pages, qu'entre en scène Max. Trois lettres minuscules pour un personnage central, un personnage qui expliquerait aussi le titre du roman. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que lorsque Alix va rencontrer Max, leurs deux destins vont se percuter de telle sorte qu'ils vont passer un contrat moral tous les deux. Max rendra visite à Alix une fois par semaine pour lui raconter, lui dire plus exactement, sa vision de la vie, mais de la vie quand elle porte un grand V, messieurs dames, et nous dépasse totalement. Et Alix, elle notera absolument tout ce que dira Max. Pourquoi, me demanderez-vous ? Eh bien tout simplement parce que Max porte un message collectif et qu'il a choisi Alix pour le transmettre. Et une fois le roman refermé, force est de constater que voilà chose faite, le message est passé et bien faite, ma parole, puisque moi je me suis sentie peut-être un peu comme ça.
How come I end up?
Le génial Thom Yorke pour dire le message de Max, le personnage de Maud Saint-Seine, dans son roman qui s'appelle Je ne suis que son nègre, celui qui vit dans les pages de son roman. Donc, le labyrinthe de Thom Yorke, sa musique juste vertigineuse qui peut en 3 minutes mettre 12 000 personnes d'accord, 12 000 personnes qui se lèvent comme un seul homme et qui disent que oui, au-dessus et au-dessus de nous, d'autres vérités, d'autres possibles, d'autres moyens d'action, d'autres forces. Alors, bien sûr, quand c'est Thom Yorke qui le dit via sa musique géniale, pas de scandale, pas Dieu qui se lève au ciel, pas d'étiquette posée sur le dos, au pire, un article dithyrambique et très parisien, mais au pire, notez bien. Alors que Max, qui est monsieur vous et moi, quelque part, quand lui, il veut nous dire que, par exemple, la théorie du complot existe, que les âmes se réincarneraient peut-être, que le bonheur existe, mais que le malheur non, que le malheur, il ne serait qu'une de nos nombreuses fausses interprétations d'une étape du bonheur, alors là, par contre, on y va de nos offuscations judéo-chrétiennes et on ricane sévère. Quand Max nous explique que l'amour charnel peut se vivre encore très différemment que ce que la majorité d'entre nous croyons, on crie au scandale. Et là où Maud Saint-Seine, tout inconnue du grand public qu'elle soit, a réussi son tour de force, c'est qu'elle a laissé la parole à Max sans pousser les grands cris qui vont avec, sans non plus soutenir une quelconque thèse. Et ce qu'elle a réussi encore, c'est de tendre un fil de tension plus que ténu, un chouïa angoissant, car Max, il nous fait peur à tous. Pensez donc venir foutre un tel coup de pied sur nos petites fesses, tellement assis sur des siècles et des siècles de fainéantise, ça fout les jetons, les enfants. Et le message de Max au cœur du roman de Maud Saint-Seine, il pourrait se dire avec ce grinçant génial-là. Voilà, David Byrne et Brian Eno, encore des génies en veux-tu en voilà, pour dire toute l'ambiguïté du personnage de Max dans le roman de Maud Saint-Seine qui s'intitule « Je ne suis que son nègre ». Avant de lui laisser la parole à Maud Saint-Seine, sachez quand même que son roman est aussi, mais nous allons en causer ensemble, une galerie de portraits splendides, des analyses très très justes sur notre époque de malade, des phrases qui tombent comme des couperets au sujet des liens, que ce soit des liens amicaux entre Alix et Zélie par exemple, ou le lien de la maternité entre Alix et Stéphane, sa fille, le lien lien qui existe aussi entre Alix quand elle était une enfant et une grand-mère quasi magique, et enfin les liens amoureux. L'écriture de mode est sans fioriture, juste des phrases écrites comme le serait une partition, un rythme scandé qui a aussi contribué à cette tension autour du personnage de Max, que l'on croit dangereux, parce qu'il nous ressemblerait étrangement dans ce que nous ne voulons pas voir de nous-mêmes. On y retrouve aussi la ville de Montpellier, mais juste ce qu'il faut, de la musique, juste pour que Rock'n'Page adhère à 100%. Bref, trêve de blabla. Dans Rock'n'Page, il est grand temps pour moi d'accueillir Maud Saintin. Maud Saintin, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock'n'Page.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors, on va commencer par une question assez ouverte. Comment l'écriture est-elle entrée dans votre vie ?
Je ne sais pas quand elle est rentrée dans ma vie. Ma vie est rentrée dedans du jour où j'ai su tenir un stylo, en fait.
D'accord.
On a par correspondance avec ma grand-mère. Du jour où j'ai su écrire, je lui écrivais des lettres, elle me répondait. Et jusqu'à sa mort, on s'est écrit. On a de quoi faire un beau recueil avec ça.
Alors voilà, justement, cette grand-mère, elle est aussi, comme ça, en filigrane dans votre roman, celui que vous venez défendre aujourd'hui ici, qui s'intitule « Je ne suis que son nègre ». Sur la quatrième de couverture, il est mentionné que ce roman-là est votre troisième roman. Et ce, malgré le fait que c'est le premier roman qui vous fait connaître du grand public. Mmh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les deux premiers ?
Les deux premiers sont restés dans mes tiroirs. En fait, j'ai pas eu le. Je pense que j'étais pas encore mûre pour les assumer complètement. J'étais peut-être pas prête non plus. J'étais pas satisfaite de l'écriture que j'y avais mis. J'avais peut-être pas assez travaillé non plus. Alors que celui-là est vraiment pour moi abouti. Je l'ai écrit il y a 2 ans et je l'ai retravaillé il y a 6 mois complètement pour reprendre la forme romanesque et travailler la structure et les personnages. Donc pour moi, il est digne d'être édité.
Alors tout au fil de l'émission, j'ai beaucoup parlé, expliqué ce que contient Je ne suis que son nègre, mais comment il est né concrètement, ce roman-là ?
Il est né d'une histoire, il est né d'un Max qui, je ne sais même plus s'il a existé aujourd'hui, mais qui, je pense, existe en chacun de nous.
C'est un personnage, effectivement, comme je le dis dans la chronique, qu'on peut croiser. Ou qu'on peut porter, même.
C'est un petit peu le fruit de tous nos fantasmes, une des conséquences de l'angoisse existentielle. Depuis que Dieu est mort, en fait, ça ne veut pas dire pour autant que le pragmatisme règne.
Dieu est mort, Maud Saintin ?
Ah ben, je pense que les années 60 l'ont pas mal abîmé, quoi.
Alors ça ferait l'objet d'une autre émission. Alors, dans le roman, certaines phrases m'ont assise, hein, vraiment, par leur justesse. Je vais en lire une pour que les auditeurs puissent se faire une idée. Je fais partie d'une génération dépressive et insupportable, des enfants gâtés, résignés, qui se droguent, juste ce qu'il faut pour s'offrir une vague illusion de bonheur. À les regarder, on jurerait qu'ils n'ont jamais eu d'adolescence, et pourtant, ils sont incapables de se comporter en adultes. Sans ambition pour la plupart, ils se contentent de cumuler des sons et des images, parce qu'ils ne savent plus lire ni écrire depuis longtemps. À part Zélie, je ne vois que des têtes calées devant des écrans qui s'inscrivent sur des sites pour trouver des amants, se faire des amis et savoir où sortir. Une génération cultivée et inerte. Les garçons ont capitulé et les filles ne rêvent plus. Seules, les nuits restent capables de les sortir de la torpeur et du sérieux neurasthénique qui les caractérise. Je fais partie d'une masse déplorable dans laquelle je me noie et qu'il m'arrive de mépriser sans doute parce que je lui ressemble. Zélie est une bouée à laquelle je m'accroche en espérant que cela ne se voit pas. Alors voilà, ce genre de phrase...
Ça fait peur.
Oui, ça fait peur, hein, votre livre. Non, mais il faut être sérieusement agité, quoi. Bon. Non, alors, justement, cette époque, cette génération, sans foi, sans Dieu, est-ce que Max prend plus de sens parce qu'on est dans ce contexte-là ?
Ben, d'un prime abord, on pourrait penser qu'il est fou, mais ce Max, hein, surtout dans une époque où on a quand même accès à beaucoup, beaucoup d'informations, la science évolue. On peut être tous qualifiés de pragmatiques, en fait. Hein. On est dans un réalisme, mais angoissant, finalement. Et je pense, enfin, je mets au défi n'importe quel humain doué de raison, athée même, de ne pas douter de ses convictions face à un drame qui peut lui arriver, comme un deuil, mm-hmm. ou face même à sa propre mort. Donc je pense qu'on doute tous.
Et même...
C'est bizarre, en parlant, j'ai l'impression que je vais passer pour une grenouille de bénitier. Genre, je suis pas du tout dans la religion.
Vous ne seriez pas invité à Rock'n'Page, vous étiez une grenouille de bénitier.
Mon message, c'est juste qu'il n'y a pas de vérité à proprement parler. Il y a des vérités, chacun a la sienne. et qu'on est tous en proie au doute à un moment ou à un autre.
Surtout dans cette époque, comme vous le dites très justement, et là on vient de lire un passage de votre roman, mais dans cette époque qui a accès justement à tout à une vitesse absolument folle, et qui en même temps manque de l'essentiel, quoi, d'une croyance quelque part.
Et moi non Est-ce plus, que c'est un manque pas, est-ce que c'est...
Moi non plus, je ne suis pas une grenouille de bérénité, ça on le sait déjà, mais...
Il y a un vide, mais est-ce que c'est un manque ? Pas forcément, c'est une évolution. Je pense qu'on ne peut plus s'accrocher à des croyances aussi absurdes qu'Adam et Ève ou des...
Bien sûr.
Donc on va passer à autre chose, mais c'est vrai qu'on est une génération un petit peu sacrifiée où on doit réinventer, même au niveau de l'amour, hein, au niveau de la politique, n'en parlons pas. Tout est à refaire, à revoir avec de nos propres bases. Et on a un petit peu de mal avec ça, on rame un peu, ouais. J'espère que nos enfants y arriveront mieux que nous.
Alors la tension que vous avez su créer autour du personnage de Max, cette espèce d'angoisse grandissante finalement, elle peut exister car Max dit en partie ce que nous ne voulons pas entendre, mais qui n'est pas toujours aussi dément que ça et que nous portons tous un peu aussi.
Oui, ça aurait été un peu facile de faire un pauvre taré qui dit des choses énormes et fausses. Il y a beaucoup de choses vraies dans ce qu'il dit, enfin sur les réalités, sur la société.
Alors vous venez de dire, attention, hein, je ne suis pas une grenouille de bénitier. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pris un risque en faisant d'Alix, votre personnage principal, le porte-parole de Max ?
Elle ne l'est pas vraiment, enfin pas de mon point de vue, hein, puisqu'elle quand même elle démonte ses théories les unes après les autres. Elle ne veut pas y croire, malgré ce qui lui arrive. Pourtant, il lui arrive des choses assez surprenantes qui pourraient démonter ses points de vue. Et finalement, non, elle reste quand même ancrée dans le réel. Elle reconnaît peut-être qu'elle peut douter, mais je pense pas qu'elle défende vraiment Max.
J'ai pas dit qu'elle le défendait, elle s'en fait le porte-parole. Vous m'enlèverez quand même pas du crâne que vous avez choisi comme titre « Je ne suis que son nègre ». On est d'accord. Et or, le seul jeu présent dans tout le roman, il est sur le titre, parce qu'après c'est Alix. Passons sur ce point de détail. Max est une partie de votre roman, mais une partie seulement. Ils sont aussi présents alors des grands sujets comme très bien exploités, hein, comme l'amitié, les relations amoureuses, le fait d'être mère, des passages aussi sur l'enfant que fut Alix. Comment avez-vous travaillé la construction de votre récit ? Comment est-ce que vous avez réussi à articuler tout cela ?
Il y a beaucoup de pensées forcément personnelles liées à mes expériences, hein, mes lectures aussi. Après l'agencement des chapitres, je me suis assez pris la tête dessus comme un gros puzzle à remettre en place, à remettre dans tous les sens. Il y a pas vraiment. Oui, il y a une structure déstructurée un petit peu. Hein, il y a pas de suite chronologique. Hein, il y a des retours,
comme
des voyages,
des digressions de la pensée, quoi.
Ouais, c'est un petit peu des petits flashs. Ouais, c'est des chapitres courts, donc je me suis permis justement de les mettre un peu dans tous les sens.
Alors justement, voilà, dans la chronique, je parle du rythme de votre roman qui est très très bien réussi, qui maintient le tout dans un équilibre savant et très bien dosé. Vous êtes aussi membre d'un groupe de musique qui s'appelle Mon Mec. Hein.
Oui.
Quelle passerelle vous pourriez tisser entre le fait de composer, chanter et puis écrire ?
Je chante ce que j'écris déjà, donc c'est la première chose. Donc je me place en tant qu'auteur, j'écris des textes. Si je chante, c'est pour mes textes, en fait. J'ai eu le plaisir avec la rencontre avec Éric Manchon d'être libre de mon écriture, complètement libre. Il me fait confiance et du coup, je suis allée au bout de ce projet. Il n'y aurait pas eu ça, je ne l'aurais pas fait, je pense. Et le rapport avec, tout simplement le rapport, c'est l'écriture. Je pense que qu'on fasse du court ou du long, on a quand même une partie de soi qu'on a envie de livrer quand on écrit, il ne faut pas se leurrer. Et bon, je suis plutôt à l'aise avec le court, mais c'est un exercice complètement différent.
Alors, je ne suis que son nègre, mode Saint-Ain. Alors, sur la couverture, on voit écrit un kilo d'étincelles, en recherchant et en re-recherchant, même avec Internet. Un kilo d'étincelles est une maison d'édition qui n'existe pas. Donc, en fait, votre roman, il est autoproduit.
Damnette,
vous êtes dévoilée. Mais je fais quand même le choix de défendre ce livre parce qu'il n'y a aucune, enfin, je veux dire, vu le contexte actuel, il n'y a aucune connotation péjorative à s'auto-éditer quand on veut vraiment aller au bout du fait de faire lire son roman. Alors, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui vous attend avec Je ne suis que son nègre au niveau de la com, la distribution, etc. Comment les auditeurs pourraient, par exemple, se procurer votre roman ?
Bah, le livre est disponible chez Soramps déjà.
Audition,
il est en vente pour 15 euros. J'ai la chance quand même depuis que je l'ai sorti, enfin sur papier, hein, de présenter. J'ai eu pas mal de bons retours et de possibilités en fait. Hein. Là, je vais donc le 31 mars, je serai à Paris pour une soirée, dans le cadre d'une soirée qui s'appelle Langage des viscères. C'est Amine Boussekine, c'est un auteur amoureux des arts qui organise à Paris depuis quelques années des soirées qui mêlent des performances artistiques, des expos, des concerts, des lectures, etc. autour d'un thème. Je me suis présentée à la dernière soirée en février aux Trois Baudets. Une soirée vraiment super. Et pour la prochaine édition qui a lieu donc le 31 mars à l'espace Chiron, à Paris dans le 11e, il m'a proposé très gentiment de venir présenter mon livre. Donc je me retrouve au milieu des auteurs comme Philippe de Folco. Il y aura des performances et également d'artistes, des projections. Et donc je ferai ma séance de dédicace là-bas.
Super. Et pour les Montpelliérains alors ?
Alors pour les Montpelliérains, j'ai une date à confirmer que je n'ai pas encore. Je vais organiser une signature qui sera faite à la Maison pour tous, Joseph Ricom. Donc ça se trouve au théâtre Gérard Philippe à Montpellier. Donc je pense d'ici la fin du mois. Ensuite, j'ai une signature le 21 avril à 14h à Cultura, à Nîmes. Hein. Là, on n'est plus à Montpellier.
Ouais. Mais ouais, alors on retrouvera toutes ces informations sur le blog de Rock and Page au http://thisisrockandpage.blogspot.com. Maude Saint-Ain, oui. Vous êtes. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation.
Merci de me recevoir.
Je vais pas. Plaisir. Vous n'allez pas couper à la question Rock and Page. Quel titre de musique ou quel chanteur choisiriez-vous pour évoquer « Je ne suis que son nègre », votre roman, en musique?
Je pense à Guinzou, c'est un groupe de rock belge que j'aime beaucoup depuis le début. Mm. Et le premier titre de leur album Blow, qui s'appelle Blow, donc, qui mêle à la fois rock, mélodie, donc le chanteur est pianiste également, donc il a vraiment un sens de la mélodie assez aiguisé. Il y a une énorme mélancolie qui ressort de sa musique, et je trouve très contemporain et rock'n'roll.
Et il a un souffle épique absolument formidable lui aussi. Merci Maude Saint-Ain.
Merci.
Voilà, c'était Maude Saint-Ain au micro de Rock and Page. Je vous rappelle que nous venons d'évoquer ensemble « Je ne suis que son nègre », le roman qu'elle vient de signer pour nous. Moi, je dis, si vous avez envie de pas pouvoir refermer un livre pendant quelques heures, si vous avez envie de pas une seule seconde d'ennui, si vous avez envie de vous laisser percuter par la justesse du ton de Maude Saint-Ain, par ses personnages chargés de sucre et de soleil, son humour aussi, et les thèses mystiques de Max, alors ne perdez pas de temps, c'est un conseil, et demandez-nous un exemplaire de « Je ne suis que son nègre », procurez-vous-le aussi à la librairie Sorams à Odysseum. En ce qui concerne ma petite pomme, il m'arrive encore de me balader en me disant « Ah ben ouais, tiens, et si sur ce coup-là, Max avait raison, et que moi, je veux juste pas savoir, histoire d'avoir la paix et de dormir sur mes 8 oreilles. Et moi, je dis qu'une fois le livre fini, si j'y pense encore, alors moi, je dis banco, on vend la caravane, ce roman-là, il était réussi. Rock'n'Page, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Tom de Radio Clapas, à la technique. Prenez tous bien soin de vous. On va se quitter en écoutant le titre que Maude Saint-Ain a choisi pour évoquer « Je ne suis que son nègre », son roman. Retrouvez tous les anciens numéros de Rock and Page sur le blog de l'émission au http://thisisrockandpage.blogspot.com. Allez, à tout bientôt pour un nouveau numéro.